le magazine citoyen avec la province Sud, une province citoyenne.
La province Sud, agir pour l'avenir.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine citoyen en direct sur Radio Rythme Bleu. On est ensemble pendant une demi-heure et on va s'intéresser aujourd'hui aux enjeux de l'accessibilité pour les personnes malvoyantes, déficientes visuelles, notamment à travers le braille. Et pour en parler, nous recevons Christelle Masseglia. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice du service d'accompagnement social pour l'autonomisation et l'inclusion des déficients visuels.
Exactement.
Et ça se dit ?
Et ça se dit SASAIDV.
Tout simplement, on va en reparler avec vous. Jean-Yves Botteau est avec nous, enseignant référent au vice-rectorat spécialisé pour les élèves malvoyants et aveugles. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous également. Jérôme Kiosson, qui est donc technicien formé à la réparation des machines Perkins. Vous nous direz tout, ce sont des machines à écrire le braille. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et puis Marie-Angèle, qui est également adhérente à l'association Valentin Aoui. Bonjour.
Bonjour.
Merci à tous les quatre d'être avec nous pour parler de ce sujet de l'accessibilité. Finalement, peut-être commencer avec vous, Christelle Masseglia. Concrètement, la question de l'accessibilité, c'est central, j'imagine, aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie.
Oui, c'est central. Et l'accessibilité, ça touche pas forcément que la voirie. Ça touche l'accessibilité aussi à travers, du coup, les documents, les outils numériques et plein d'autres domaines. Et en effet, nous, c'est un axe, du coup, que l'on prend à travers, du coup, l'accompagnement des bénéficiaires sur ce nouveau service.
Et donc là, il y avait un véritable enjeu. On en a un petit peu parlé aussi dans l'actualité sur ces machines Perkins en particulier, où il n'y avait pas de techniciens formés sur le territoire et vous avez souhaité remédier à cela.
Oui, c'est ça. C'est un projet fou avec les partenaires. Donc Lisandre Bischoff, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais qu'on salue, qui est du coup l'équivalent de Jean-Yves Botteau, mais sur le secteur du coup des primaires. De se dire, en fait, aujourd'hui, on a un cruel besoin. On n'a pas les possibilités en interne, du coup, de réparer ces machines Perkins. Ça demandait, du coup, d'envoyer directement en métropole. C'était compliqué en termes d'acheminement, de coûts aussi que ça représentait. Et donc, on a ouvert ce projet fou de se dire, on va développer une compétence locale qui va servir aussi bien à l'AVH que finalement à tous les enfants aussi, du coup, déficients visuels et à toutes les personnes qui, au sein, du coup, de leur domicile, ont une machine Perkins qui n'est plus en état de fonctionner. Et on a trouvé un candidat exceptionnel qui a pu y répondre. Donc, voilà, c'est un beau projet qu'on a commencé à mener, mais qui n'est pas terminé.
Bon, ce candidat exceptionnel, il rougit peut-être, Jérôme Kiosson. Dites-nous, c'est quoi cette machine Perkins alors? Pour ceux qui ne connaissent pas, pour le grand public.
Une machine Perkins, physiquement, ça va ressembler à une machine à écrire standard, sauf qu'au lieu d'écrire des lettres, elle va endosser, des points sur une feuille pour que les déficients visuels puissent lire, donc avec les doigts, du braille. Donc techniquement, c'est précis, puisque vous avez déjà vu du braille sur des boîtes de médicaments, etc. Et ça doit être aligné, réglé aux petits oignons pour que ça soit le plus efficace possible.
Et donc aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a un stock de machines à réparer sur le territoire ?
Il y avait un stock. Grâce aux personnes qui sont venues, qui m'ont formé, on a pu apurer le stock, c'est-à-dire les rendre toutes fonctionnelles. Et maintenant, on les entretient régulièrement. Et s'il y a des nouvelles machines, on sera prêt à les réparer et les entretenir.
Donc aujourd'hui, vous avez reçu un certificat pour pouvoir le faire directement sur le territoire. C'est comme ça que ça se passe ?
Tout à fait, ouais. J'ai été formé à un premier niveau. Dans le futur, on a peut-être besoin d'évoluer encore, parce qu'on peut toujours affiner les réglages. Et les machines sont toutes fonctionnelles aujourd'hui.
Est-ce que c'est une technologie qui évolue ? Parce qu'on a l'impression que vous dites que ça ressemble à une machine à écrire. Est-ce que ça évolue avec les technologies, ces questions de l'accessibilité ?
La machine a été créée, je crois, dans les années 60-70. C'est de l'horlogerie, c'est très très fin, c'est très petit. Elles évoluent pas, ces machines n'évoluent pas, mais elles ont été très bien conçues, avec des pièces qui se changent, des machines qui se réparent vraiment. Il y a des évolutions numériques, etc. Mais aujourd'hui, ma formation a porté sur la réparation et l'entretien de ces machines, qui sont d'une efficacité incroyable quand elles sont bien entretenues.
Et aujourd'hui, quelle est l'utilisation de ces machines en Nouvelle-Calédonie ? Concrètement, peut-être
Bien, ce sont des machines que les élèves utilisent pour l'apprentissage du braille. C'est-à-dire que souvent, ils commencent par le braille papier, comme disait Jérôme, au niveau du braille. Maintenant, les technologies ont évolué. On passe au braille informatique, c'est-à-dire qu'on a des plages braille qui se connectent à un ordinateur et qui permettent d'avoir accès à Internet, d'accéder à de nombreux documents. Mais comme on prend un papier, un crayon et qu'on continue à apprendre à écrire avec un stylo pour un élève ordinaire, eh bien le passage par le braille papier est une étape indispensable. Et puis, c'est un complément aussi, parce que ça permet à des élèves, en cas de problème informatique, de pouvoir continuer à travailler. Ça permet aussi de rédiger des courtes fiches pour mémoriser en fonction de leurs cours, etc. Donc, c'est un outil qui reste d'actualité.
La prise en main est facile ou c'est quelque chose qu'il faut vraiment... Il y a un apprentissage derrière ?
L'apprentissage est assez rapide. C'est-à-dire qu'apprendre à écrire le braille avec un élève, ça dépend de son niveau de développement et le moment lequel il en a besoin. Mais souvent, en 6 mois, voire une année scolaire, l'apprentissage de l'écriture se fait assez rapidement. Généralement, on commence le pré-braille en grande section, moyenne et grande section de maternelle. Par contre, l'apprentissage de la lecture avec les doigts, c'est un processus qui est plus long.
Justement, Marie-Angèle, peut-être vous qui êtes bénéficiaire de l'association Valentin Aoui, c'est des machines que vous utilisez ?
Oui.
Et donc, dans votre quotidien, par exemple, vous faites quoi avec ces machines-là ?
Moi, j'ai pas à la maison, j'utilise une tablette avec un poinçon. Pareil, hein, c'est les mêmes points qui ressortent. Quoi.
C'est le même principe ?
Oui, voilà.
D'accord. Et le fait que les machines soient réparées sur le territoire, vous en avez pensé quoi, vous qui êtes très active dans l'association ?
C'est très bien, parce qu'on en a besoin. Parce que des fois, on part dans les écoles, sensibiliser, en sensibilisation, du coup, on a besoin de ces machines.
Quand vous dites sensibiliser, c'est sensibiliser les personnes qui sont malvoyantes ou sensibiliser tous les élèves ?
On nous demande dans les écoles à venir... sensibiliser les enfants. Ça peut être les personnels aussi. Parce que des fois, il y a des enfants qui sont atteints de malvoyance ou qui portent des lunettes. Enfin, c'est une façon de sensibiliser. Quoi.
Quel message vous passez quand vous allez dans les écoles ?
Tout ce qui peut toucher à la vue. Je sais pas, les conséquences du... sur les diabètes, faire attention aux objets, des trucs comme ça qui peuvent toucher l'œil.
Et quand on parle justement de sensibilisation des élèves, peut-être Jean-Yves Botteau, est-ce que les élèves, tous les élèves sont sensibles à cette question de ce type de handicap ?
Alors, moi, c'est un travail que je fais quasiment de façon systématique, puisque tous les élèves que j'accompagne sont dans des classes ordinaires. Et au bout d'un moment, le handicap soit stigmatise l'élève et il est en souffrance, soit les camarades sont bienveillants et ont besoin d'en savoir un peu plus. Donc je vais dans les classes, du coup j'emprunte des machines Perkins à la VH et je vais passer 1 heure, 2 heures dans les classes, expliquer les différentes façons de mal voir et les différentes cécités. Et ensuite, j'invite les élèves à les utiliser. Et souvent, pour eux, c'est une vraie découverte. Ils y mettent de l'affect. Et après, la perception de leurs camarades déficients visuels est souvent modifiée très positivement.
Cette machine, elle crée du lien ? Quand vous l'utilisez, est-ce que c'est le...
Oui, elle a un côté... Un côté, comment dire...
Elle intrigue,
voilà. Cette machine intrigue. Elle fait à la fois penser au passé, parce que cette machine qui sonne comme en fin de ligne, comme les anciennes machines à écrire, etc., ça évoque des choses pour les élèves. Et en même temps, il y a un côté magique du point braille, parce que je peux écrire quelque chose que les autres ne peuvent pas forcément lire tout de suite.
Ah, c'est réservé
aux
initiés, quoi.
Et parfois, il arrive que, quand je fais une sensibilisation, il y a des élèves qui écrivent un petit mot à un ou une camarade en braille.
Ah voilà, ça sert à ça, ça y est, on touche un point sensible. Mais c'est vrai, justement, le fait que ce soit une machine qui puisse paraître un petit peu désuète comme ça, j'imagine que ça crée un intérêt plus que, peut-être on parlait tout à l'heure avec Marie-Angèle de sa tablette, qui là serait quelque chose de numérique, qu'ils ont l'habitude de voir tous les jours, qu'il y aurait peut-être moins cette sensibilisation. C'est ce que vous pensez ?
Oui, peut-être. En tout cas, c'est un outil qui est à la fois complet parce que il permet d'écrire rapidement, rapidement du braille, et puis qui permet aussi d'en écrire une certaine quantité. Quand Marie-Angèle parler de la tablette, c'est pas une tablette numérique, c'est une tablette avec un poinçon, c'est-à-dire d'accord. que Marie-Angèle, elle a appris à écrire le braille à c'est l'envers, elle retourne la tablette, elle a une façon d'écrire le braille à l'envers, ensuite elle retourne la tablette pour voir la feuille, elle lit les points à l'endroit. Donc d'accord. ça, c'est une technique qui était encore avant la machine Perkins.
D'accord, et vous n'utilisez pas du tout de machine Perkins alors, Marie-Angèle?
Sauf quand je suis à l'association, mais sinon à la maison, j'ai la tablette. Je peux mettre dans mon sac aussi, pour noter ou je sais pas.
Et donc c'est plus long alors, d'écrire qu'avec la machine?
Ouais.
Non?
Il faut juste des pas faire faute des frappes, quoi.
Et sinon il faut tout recommencer, c'est la difficulté, c'est ça?
Oui, mais c'est plus facile à transporter une petite tablette que la machine.
D'accord. Et donc, les gens utilisent les deux types de technologies, c'est ça, au niveau de l'association ou...
Non, au niveau de l'association, il y a peu de personnes déjà qui sont en capacité de lire ou d'écrire le braille. Donc, nous, c'est justement un projet, entre guillemets, d'apprentissage qu'on met en place. certains s'ouvrent de plus en plus à ce qu'expliquait Jean-Yves, hein, c'est plage un petit peu la numérique, parce qu'on évolue aussi vers ça. Donc nous, en fait, si vous voulez, on offre un panel en fait, de propositions. Ça va être du coup l'apprentissage du braille, notamment à travers du coup, les machines Perkins. Et ensuite, comment on le transpose aussi sur le plan numérique. Et on essaie en tout cas d'inclure un maximum cette ouverture numérique aussi, autant pour les entreprises, parce que ça fait partie aussi d'une forme de sensibilisation, que à l'intérieur du coup de l'AVH pour les bénéficiaires. Aujourd'hui, vous voulez faire une démarche, hein, ne serait-ce qu'une démarche administrative, sociale, renouveler une aide médicale. Si vous n'avez pas d'accès en ligne, si vous ne pouvez pas accéder du coup à la plateforme du fait du coup par exemple d'une déficience visuelle, vous êtes complètement bloqué. Donc nous, on retravaille aussi tout ça, toute cette notion d'accessibilité. Donc avec des réglages au niveau informatique, des synthèses vocales et autres. Donc voilà, en fait aujourd'hui, on surfe avec cette nouvelle génération sur plein d'outils. Certains outils vont s'adapter à certaines personnes. Donc ça, nous aussi, c'est tout notre diagnostic, toute l'évaluation que nous, on pose, les professionnels, avec du coup l'aide aussi de services complémentaires, de Jean-Yves et autres.
On parlait de synthèse vocale, justement. Ce sont des équipements qu'on retrouve facilement ou alors c'est difficile de se les procurer? Est-ce que ça a un coût, par exemple, pour la personne qui l'utilise?
Alors oui, ça a un coût pour la personne qui l'utilise. C'est des logiciels qui sont relativement onéreux. Donc voilà, après, il peut y avoir des aides financières et autres. Mais aujourd'hui, il existe pas mal d'applications quand même aussi sur le téléphone qui peuvent être gratuites et qui compensent plutôt pas mal. Donc nous, on essaie aussi de surfer, entre guillemets, sur ces nouvelles applications-là. On les teste personnellement. Personnes voyantes, travailleurs sociaux, on les teste au quotidien pour voir un petit peu ce qui est adapté, pas adapté. Et ensuite, on les propose du coup directement aux bénéficiaires.
Est-ce qu'aujourd'hui, il y a suffisamment... On parlait de l'accessibilité, mais on a commencé l'émission en disant que c'était quelque chose quand même d'assez central pour les personnes en situation de handicap. Est-ce que tous ces problèmes-là, toutes ces problématiques-là sont suffisamment prises en compte, selon vous?
Non, pas forcément, mais c'est là aussi où je pense que l'AVH, entre guillemets, a un gros rôle de communication. Nous, on n'hésite pas à aller voir, les différents services, de travailler aussi avec différents partenaires. En ce moment, on a travaillé aussi avec, par exemple, Lagoon, qui développe tout un module d'accessibilité. Donc voilà, on essaie en tout cas de travailler avec les personnes qui peuvent avoir... une petite influence là-dessus, que ce soit les politiques ou les partenaires. Et après, on est très en lien, nous, avec notre association mère, qui est la VH France, qui développe pas mal aussi de nouvelles compensations et qu'on essaie de faire venir sur le territoire petit à petit.
Par exemple ?
Par exemple, des dernières applications. Par exemple, ça peut être du coup des avertisseurs aussi sonores au niveau de la rue ou autre. Aujourd'hui, on n'a pas trop encore tout ça ici. Donc ça, c'est par exemple des travaux qu'on mène avec la mairie. Nous, aujourd'hui, on a la chance d'avoir un ergothérapeute qui vient compenser, rééduquer, aménager du coup tout ce qu'engendre la déficience visuelle, qui elle travaille en parallèle du coup avec la mairie. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, la mairie, c'est bien, la voirie est de plus en plus accessible. Oui, c'est vrai, mais de plus en plus accessible. En fait, quand on pense handicap en Calédonie, on pense souvent fauteuil roulant.
Comme partout, j'allais dire, non ? Est-ce qu'il n'y a pas ça
Sûrement comme partout, mais aujourd'hui, nous, on ouvre en tout cas le fait que le handicap, c'est aussi la surdité, c'est aussi la malvoyance. Donc, à travers nous, nos actions aussi, par exemple, à la CAFAT, à l'OPT ou autre, on essaie de sensibiliser au fait que là, leurs outils ne sont pas forcément adaptés, leur expliquer aussi l'accompagnement, le guidage, l'approche, voilà.
Marie-Angèle, qu'est-ce qu'il faudrait modifier pour vous dans la ville ? Est-ce qu'il y a encore des difficultés que vous rencontrez et que vous aimeriez peut-être améliorer quelque chose ?
Mais c'est surtout les trottoirs, je pense. Il y a encore à améliorer, hein, je pense. Parce que des fois, les voitures sont mal garées sur le côté. Il y en a des fois, les gens qui se garent carrément sur le trottoir. Du coup, je sais pas, peut-être...
Et ça vous gêne au quotidien ? C'est des choses, parce que c'est l'occasion aussi de passer un message aux automobilistes qui nous écoutent en ce moment, de dire que c'est pas sans conséquence que de se garer avec deux roues sur le trottoir.
Ben oui, c'est gênant, parce qu'on est obligé de descendre sur la route. Alors si on n'est pas accompagné, on risque... c'est un risque aussi.
Puis il y a des nouveaux dangers, je me permets aussi, il y a des nouveaux dangers. On parlait des voitures électriques. Mmh. Les voitures électriques, on les entend pas. Ça, c'est très compliqué pour les personnes déficientes visuelles aujourd'hui. C'est que, en fait, ils travaillent principalement, en tout cas, ils se repèrent principalement grâce à Louis. Et aujourd'hui, une voiture électrique qui sort d'un parking, en fait, on ne l'entend pas, donc on traverse.
Elle n'est pas censée faire un peu de bruit en dessous d'une certaine vitesse, justement, pour cela ?
Alors, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, mais en tout cas, je peux vous dire que c'est un vrai problème, vraiment. Mmh. Et on est souvent, on est de plus en plus, malheureusement, confrontés à cette problématique-là. Donc voilà, comme on expliquait tout à l'heure, je pense qu'au fur et à mesure que notre temps évolue, on est confronté aussi à de nouvelles problématiques avec aussi de nouveaux outils derrière. Hein, mais nous, il faut toujours qu'on soit aussi à la page sur ces nouveaux risques, ces nouveaux dangers et comment on le compense, comment on réagit face à ça. Quoi.
Si on revient sur cette fameuse machine dont on parle depuis tout à l'heure, quel sentiment vous avez eu quand vous avez réparé votre première machine en se disant que ça allait servir aux personnes, notamment de l'association ?
Alors, avant de les réparer, j'ai eu la chance d'avoir une sensibilisation, comme expliqué tout à l'heure, par une personne déficience visuelle. Donc, je le salue aussi, c'est Jean, je crois. Et c'est vrai comme j'ai expliqué, on a toujours vu ces points, mais ça reste étrange pour nous. Enfin, moi, je suis voyant, j'ai jamais eu l'occasion, à part sur les boutons d'ascenseur, sur les boîtes de médicaments, j'ai découvert le braille. C'est relativement accessible. Parce qu'avec la vision, c'est-à-dire quand on peut comparer les points qu'on touche et à quoi ça correspond, c'est accessible. Si on essaye en fermant les yeux, c'est inaccessible. Et j'ai compris l'utilité de réparer ces machines, c'est-à-dire qu'une machine à écrire, donc Perkins, qui va faire un point en plus ou qui au contraire va pas assez enfoncer la feuille, c'est une lettre différente. Donc le mot ne veut plus rien dire. Et dans la vie de tous les jours, si je me projette comme un malvoyant, une boîte de sel, une boîte de poivre, s'il n'y a pas écrit dessus sel et poivre, je loupe ma recette, du sucre, etc. C'est toutes ces petites choses qui font qu'on comprend l'utilité d'avoir ces machines qui écrivent quelque chose sur du papier, comme aujourd'hui un stylo sur une feuille. Mmh. Donc effectivement, il y a des outils plus modernes, mais on va pas coller un ordinateur sur un paquet de sel pour savoir que c'est du sel. Le fait de réparer ces machines, ça a été une petite fierté parce qu'on n'est pas nombreux au monde à pouvoir les réparer. Les formateurs sont encore moins nombreux, je crois que c'est moins d'une quinzaine de formateurs. Donc on a eu la chance d'en faire venir deux ici. On les a exploités, voire surexploités, parce que ça a été une formation courte et intense. Et aujourd'hui, on a les capacités de réparer ces machines et voire même de demander s'il en existe, puisque c'est la question, pouvoir en mettre à disposition un maximum, enfin l'association puisse en mettre à disposition un maximum et qu'elles restent pas dans des placards où on puisse pas les, enfin qu'elles étaient pas réparées.
Est-ce qu'on a un inventaire précis d'ailleurs du nombre de machines sur le territoire ? Est-ce qu'il y en a justement dans les placards à droite à gauche ?
Justement, c'est un peu un appel qu'on voulait profiter de l'émission pour dire à tous les gens qui auraient une machine Perkins, même rouillée, même même non fonctionnelle, eh bien de la porter à la VH pour qu'on puisse faire un petit diagnostic. Après, les gens peuvent la donner. Ça peut servir en réserve de pièces détachées. Ça peut se réparer. Voilà. Quand Jérôme a commencé la formation, ils ont fait l'inventaire. Il y avait 13 ou 14 machines, je crois. Et celle qui était la plus abîmée a été transformée en stock de pièces détachées. C'est-à-dire qu'elle a été démontée complètement et a servi de réserve pour réparer les autres. Voilà. Et puis moi, je voudrais aussi profiter du micro pour dire que la formation de Jérôme, elle a pu se faire parce que les clubs services, que ce soit les Kiwanis, le Lyons et puis surtout le Rotary, avec le soutien de RRB qui avait organisé le vide-grenier à l'hippodrome au mois de novembre dernier. Et c'est ce qui a permis de financer la formation. Les formateurs ont travaillé bénévolement, mais il fallait quand même les faire venir, etc. Voilà. Donc merci au Club Service pour leur soutien. Et à RRB aussi, parce que vous avez fait de la publicité et ça a permis au vide-grenier de très très bien fonctionner.
Non, c'est une bonne chose. Voilà, on a aussi notre utilité, même si on ne sait pas réparer, nous, les machines. En tout cas, c'est quelque chose de précieux, on a le sentiment, cette machine.
Alors, elle est précieuse,
je pense. Dans le sens où elle est rare, quoi.
Pour les utilisateurs, ouais. Je pense qu'on peut toujours la trouver neuve et en acheter. Mm-hmm. Après, ça a un coût, et ça avait surtout un coût de réparation. C'est une machine qui pèse, je crois, entre 5 et 8 kilos. Donc, et qui est très, très précise, avec une précision extrême. Donc, quelque chose qui partirait en métropole pour se faire réparer. Il me semble qu'il y a un délai d'attente d'environ 6 mois en métropole lorsqu'on amène une machine. Donc, à ce à quoi il faut rajouter le délai d'envoi, le délai de réception. C'est-à-dire quelqu'un qui a plus sa machine, qui a besoin de faire réparer sa machine, c'est quasiment un an sans sa machine. C'était. Aujourd'hui, on a les compétences sur le territoire, on a des pièces détachées, et on a une structure qui organise tout ça. Donc, c'est vrai que c'est un bel avantage et, qu'on va exploiter.
Vous parliez d'une mécanique de précision et on l'a bien compris. Vous, votre domaine de compétences à l'origine pour justement arriver à ce niveau pour réparer des machines que vous ne connaissiez pas a priori auparavant.
Alors j'aime bricoler, j'étais modéliste, j'ai travaillé dans le matériel médical. Mais là, on sort quand même des connaissances puisque c'est vraiment de la mécanique. Ça se rapproche de l'horlogerie, de la serrurerie, c'est des pièces minuscules. J'ai dû m'équiper de lunettes puisque mes yeux n'étaient pas assez précis pour voir les réparations parce que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement précis. Vous voyez une lettre en braille, c'est 8 points, 6 points sur un tout petit carré plus petit qu'un ongle. Donc il faut vraiment avoir une précision extrême là-dedans.
Vous êtes satisfaite aujourd'hui d'avoir un réparateur sur le territoire? C'est quelque chose pour l'association et pour les personnes qui souffrent de cette déficience visuelle de très important?
Ah bah oui, c'est très très important. On est ravis d'avoir pu monter ce projet. Comme on expliquait, ce projet, on n'est pas au bout de nos peines. Hein. On compte bien en tout cas continuer et faire évoluer Jérôme aussi à différents niveaux. Et puis, pourquoi pas aussi avoir un impact pacifique? Parce qu'aujourd'hui, nous, on a cette problématique sur le territoire. Tahiti a la même, Fidji a la même. Et voilà, et les îles aussi à proximité ont exactement les mêmes besoins. Donc voilà, en tout cas, c'est le début d'un beau et long projet pour la déficience visuelle.
On pourrait devenir un hub de la réparation des machines Perkins.
Avec plaisir.
Donc il y a du travail dans la région, mais c'est vrai, vous avez des liens aussi avec les autres territoires français du Pacifique, notamment ces questions-là.
Oui, avec Tahiti, notamment aujourd'hui, c'est pareil, nous on est le seul revendeur de matériel spécialisé pour la déficience visuelle, et pareil, à Tahiti, ils ne sont pas forcément équipés, donc on essaie en tout cas, lors d'un voyage, même personnel, de ramener un peu de matos aussi pour eux, ou d'envoyer des colis, de négocier avec la douane, on essaie en tout cas de faire ça pour que ça soit véhiculé à moindre frais. Donc voilà, on compte bien ouvrir un partenariat un peu plus important aussi, à la fois sur le matériel spécialisé et sur du coup ces formes de réparation.
En début d'année, il y a des adhérents de l'association Valentin Away qui sont passés à la radio parce qu'ils vendaient un calendrier en nous disant qu'ils avaient des difficultés dans le fonctionnement, notamment pour les activités. Où en êtes-vous aujourd'hui ? Est-ce que vous avez les moyens de fonctionner comme vous le souhaitez ?
En fait, aujourd'hui, il y a deux entités. C'est ce qu'il faut vraiment comprendre. Moi, je représente du coup le service d'accompagnement social pour l'autonomisation et l'inclusion des personnes déficientes visuelles, donc le SASAIDV, qui lui est financé par le régime handicap dans le cadre d'un prix de journée, comme lorsque vous allez aller, par exemple, au Medipol et que vous êtes hospitalisé au Medipol. Donc ce service-là, c'est un service médico-social qui est encadré et qui a un coût de fonctionnement qui est pris en charge. Donc ça, il n'y a aucun souci. Les personnes qui sont venues vendre le calendrier, elles représentent du coup le comité Valentin Oui. Le comité Valentin Oui, c'est vraiment du coup une entité qui reste associative. C'est ce qui a toujours existé sur le territoire jusqu'à la création du SASAI. Le SASAI, il a ouvert le 17 février 2026. Hein, donc voilà, on est vraiment très, très récent. Et du coup, eux, en effet, ils ont toujours fonctionné sur subvention pendant des années. Les subventions se font de plus en plus rares, bien que certains continuent à nous suivre, notamment les communes, provinces et autres. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, qu'ils développent aussi des actions d'autofinancement. Voilà.
D'accord. Donc c'est une bonne chose quand même qu'il y ait un nouveau service qui se soit développé depuis le 17 février.
Ah ben complètement, ça permet de pérenniser déjà. Ouais. Et en fait, nous, la création de ce service, c'est professionnaliser l'accompagnement. C'était vraiment ça, en fait, l'objectif. Donc aujourd'hui, on a une équipe qui est pluridisciplinaire et qui travaille vraiment sur un accompagnement auprès des bénéficiaires. Donc c'est un accompagnement pluridisciplinaire sur leur projet personnalisé.
Eh bien, merci à tous les quatre d'être venus nous en parler ce midi. On a bien noté, eh bien, si des gens ont des machines Perkins dans leur tiroir quelque part, dans un meuble, qui n'hésite pas à les déposer donc à l'association directement, je suppose, oui, pour être réparé.
Et je précise juste que l'association a déménagé, du coup, hein, nous sommes immeuble...
Décidément, que de changements.
Oui. On est du coup immeuble Cariba au rez-de-chaussée, anciennement le centre de radiologie. Voilà. Et le numéro n'a pas changé, le secrétariat, ça reste bien le 24-11-15.
24-11-15. Merci beaucoup.
Merci.
Une interview et une émission qui, évidemment, va se retrouver sur notre site internet d'ici quelques minutes, le www.rrb.nc, rubrique podcast, magazine citoyen.